Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio dans toute sa richesse et toute sa diversité. Et ce soir, c'est avec vous, Denis Strelkov, de la rédaction russe.
Добрый вечер.
Vous nous parlerez du festival Art Dog Fest qui a lieu à Paris. Pour la rédaction en persan, Vahid Shamsoudinzad. La visite cette semaine du secrétaire du Conseil de sécurité russe a retenu votre attention, il était en Afghanistan. Et Ubaldo, bravo de la rédaction hispanophone.
Buenas noches.
Avec vous, nous découvrirons le mégaport de Chiang Rai au Pérou. Tout d'abord, ce qui fait la une de l'actualité, c'est bien sûr l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Il tient pour le moment, Vahid. Quelles sont les réactions à Téhéran, l'Iran qui se trouve non loin de cette zone très, très chaude du Proche-Orient ?
Philippe, l'Iran a dans un premier temps salué l'arrêt de l'agression israélienne au Liban où il soutient financièrement et militairement le Hezbollah. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a affirmé le soutien ferme de Téhéran envers le gouvernement, la nation et la résistance libanaise. Et dans une seconde réaction, le chef de la diplomatie iranienne a rappelé que son pays se réserve le droit de riposter aux frappes aériennes israéliennes du 26 octobre contre son territoire. Toutefois, il a souligné que son pays prend également en considération d'autres dynamiques régionales, notamment l'accord de cessez-le-feu au Liban.
Est-ce que la désescalade au Liban, si elle se confirme, peut apaiser les tensions qu'il y a entre Tel Aviv et Téhéran, entre Israël et l'Iran ?
Non, cela ne semble pas être le cas. Le premier ministre israélien a déclaré qu'Israël allait désormais pouvoir se concentrer sur Gaza et l'Iran. Hier encore, dans une interview accordée à une chaîne de télévision israélienne, Benjamin Netanyahu a affirmé être prêt à tout pour empêcher la République islamique d'Iran de se doter de l'arme atomique. Ces propos font écho à ceux du chef de la diplomatie iranienne qui a affirmé que son pays pourrait envisager le développement d'une arme nucléaire si l'Occident venait à réimposer toutes les sanctions de l'ONU. Autant dire que l'on est encore loin d'une désescalade dans la région. La situation est d'autant plus tendue que le chef des Houthis au Yémen, une autre composante du réseau d'alliances iraniennes souvent désignée par Téhéran comme l'axe de la résistance contre Israël, a annoncé que les attaques contre Israël se poursuivraient par solidarité avec les Palestiniens, et ce, malgré le cessez-le-feu au Liban.
Denis Strelkov de la rédaction russe. Dans cette guerre, Moscou a fait le choix de soutenir le Liban, diplomatiquement, mais sans s'impliquer directement. Alors, quel est le point de vue russe sur ce cessez-le-feu ?
Moscou a réagi très tardivement au cessez-le-feu entre l'Israël et le Hezbollah au Liban, alors que cette trêve initiée par les États-Unis et la France est en vigueur depuis mercredi matin. La Russie exprime une position assez nuancée. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russes, a déclaré que Moscou voyait de façon positive tout accord qui permet d'arrêter la spirale de violence et d'empêcher l'expansion des hostilités, tout en exprimant des doutes sur la mise en œuvre effective. En effet, la Russie se vantait publiquement d'avoir de bonnes relations avec Israël, au moins jusqu'à ce que l'État hébreu affiche son soutien à l'Ukraine en 2024, vu les vagues de migration de l'URSS vers l'Israël. Par la suite, Moscou s'est rapproché de l'Iran, qui lui se place évidemment, comme vous l'avez dit, du côté de Hezbollah. Poutine s'est exprimé ensuite pour une mise en place effective d'une solution à deux États. Et en plus, la Russie n'a jamais reconnu le Hezbollah comme une organisation terroriste.
Remontons un petit peu dans le temps. Peu après le massacre du 7 octobre commis par le Hamas, la Russie a voulu s'imposer en tant que négociateur entre Israël et le Liban. Mais on va.
Oui, effectivement, et ce le fait négocié par les États-Unis et la France signifie que la Russie a en quelque sorte perdu son poids diplomatique dans la région. Les autorités russes répétaient que ce sont les États-Unis et les pays de l'Occident qui sont responsables du chaos au Moyen-Orient, mais après ce sont ces pays qui l'ont aidé à rétablir l'ordre, d'où la réaction assez mitigée. Autre difficulté pour la Russie, l'Israël pourrait maintenant s'en prendre à l'Iran pour ne pas permettre au Hezbollah de se réarmer. Téhéran est très proche de Moscou et participe directement à l'effort militaire russe en fournissant des drones. Le conflit est donc loin d'être terminé aux yeux de Moscou.
Ubaldo, bravo. Parmi les pays d'Amérique latine, certains accusent Israël d'être responsable de l'escalade de la violence. Le Colombien Gustavo Petro et le Brésilien Lula da Silva parlent d'un génocide des Palestiniens commis par les Israéliens. Est-ce que cette trêve a changé leur position ?
Oui et non. Lula n'a rien dit, comme ça a été le cas dans d'autres occasions. En revanche, c'est le ministère des Affaires étrangères brésilien qui a célébré cette trêve. Mais on voit bien qu'ils ont profité de cette occasion pour souligner sa position sur ces conflits. Le Brésil demande que les retours des déplacés soient assurés par les parties et sans mentionner Israël. Le ministère a également souligné qu'il faut qu'on s'engage à respecter, je cite, « l'intégrité du territoriale du Liban ».
Du côté colombien, aucune autorité ne s'est manifestée.
Un paradoxe parce que au Liban, il y a une forte communauté colombienne, surtout dans la région de la Beka, en proie aux bombardements israéliens. On retrouve aussi les réactions du Mexique. Le gouvernement dirigé par la nouvelle présidente Claudia Sheinbaum espère que cet exemple de trêve sera reproduit le plus rapidement possible à Gaza.
D'ailleurs, on note que la toute nouvelle présidente du Mexique renoue avec la position de son prédécesseur.
Oui, tout à fait. Son prédécesseur, Andrés Manuel López Obrador, il a dit récemment que c'est l'ONU qui devrait travailler beaucoup plus pour établir la paix dans le monde. C'est ça qu'a dit López Obrador pendant 6 ans.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir dans Accent du Monde sur la situation au Proche-Orient.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Cette semaine, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, s'est rendu en Afghanistan. Il a discuté avec des responsables talibans. Voici les regards croisés des rédactions russes et persanes de RFI sur cette actualité. Vaïd, de la rédaction persane, dites-nous l'enjeu tout d'abord de ce déplacement.
Tout d'abord, il est important de souligner que les visites de hauts responsables étrangers sont rares en Afghanistan. Aucun pays n'a encore reconnu officiellement les autorités talibanes au pouvoir depuis août 2021. Cette visite est donc exceptionnelle. Sergueï Choïgou a déclaré vouloir renforcer la coopération avec l'Afghanistan et envisager le retrait des talibans de sa liste des organisations terroristes. Moscou explique que cela pourrait donner une impulsion positive à la coopération russo-afghane, notamment sur le plan économique.
Alors comment cet éventuel retrait est-il perçu à Kaboul, hein, qui est dans la zone de diffusion de la rédaction persane ?
Lors de son déplacement, M. Choïgou a aussi discuté de la possible implication d'entreprises russes dans l'économie afghane, notamment dans l'extraction des ressources naturelles. Selon des communiqués talibans, Choïgou aurait promis de retirer le groupe taliban de la liste des organisations terroristes. Cependant, du côté russe, aucun communiqué officiel ne mentionne cette promesse. Les talibans se félicitent aussi de ce que Choïgou aurait exprimé son souhait de voir l'Afghanistan rejoindre l'Organisation de coopération de Shanghai en tant que membre observateur, comme c'était le cas avant le retour des talibans au pouvoir. Bref, la normalisation des relations entre la Russie et le régime taliban semble en marche.
La Russie, justement, Denis Strelkov, on parle beaucoup de cette visite de Sergueï Choïgou en Afghanistan et cela provoque des réactions.
Oui, on a le spectre complet, Philippe, entre l'incompréhension totale et les éloges destinés au Kremlin. Mais il faut savoir une chose, on ne peut toujours pas dire de bonnes choses publiquement sur les talibans en Russie. Toute parole en faveur de ce mouvement peut provoquer des poursuites pénales pour l'apologie du terrorisme. C'est ce qui se passait avec un journaliste, Nadezhda Kevorkova, en détention depuis mai 2024 pour avoir tenu des propos qui soutiennent les talibans. On est donc dans un deux poids deux mesures. Les autorités russes veulent se rapprocher des talibans au niveau géopolitique, mais éviter à tout prix que leur idéologie radicale ne prenne racine sur le sol russe. La peur du Kremlin, c'est qu'au conflit en Ukraine s'ajoutent des attentats islamistes. Et vu la fusillade du Krokus City Hall à Moscou le 22 mars dernier, qui a fait 145 morts, ce n'est pas un fondu.
Vaïd, je reviens vers vous. Comment la société civile en Afghanistan, notamment les femmes, réagit-elle à cette normalisation ? Enfin, on voit bien que les talibans cherchent à normaliser leurs relations avec un certain nombre de pays, à commencer donc par la Russie.
En effet, selon les communications officielles des deux parties, la situation des femmes n'a même pas été évoquée lors de cette visite. Pourtant, l'ONU accuse les talibans de mener une politique d'apartheid fondée sur le genre. En un peu de plus de 3 ans, les femmes et les filles afghanes ont été privées de presque tous leurs droits fondamentaux, éducation, travail, sport et même liberté de déplacement. Pour Shakiba Davoud, artiste et militante franco-afghane des droits des femmes, les pays comme la Russie On donne peu d'importance à la question des femmes. Et dans leur relation avec les talibans, ça n'a pas d'importance.
On va l'écouter.
فکر میکنم که مسئله زنان افغانستان کاملا به فراموشی
شده. Que dit Shakiba Daoud?
Elle affirme que d'une manière générale, la communauté internationale semble avoir oublié les femmes afghanes malgré les nombreuses initiatives et campagnes de sensibilisation lancées par les militantes afghanes en Europe et ailleurs. Selon elle, avant même le retour des talibans, tout le monde savait que les femmes seraient les premières victimes de leur retour au pouvoir. Il y a bien des initiatives pourtant ponctuelles en leur faveur. Cette semaine, 20 présidentes de parlement, dont Yael Braun-Pivet en France et Roberta Metsola au Parlement européen, ont publié une tribune dans le journal Le Monde pour réaffirmer leur engagement en faveur des droits des femmes en Afghanistan. Mais pour Shakiba Daoud, de telles actions sont des larmes de crocodile.
که همه بلدن که بگن که ما ناراحت هستیم از وضعیت زنان از وضعیت حقوق بشر در افغانستان.
En quoi pour elle ce sont les larmes de crocodile comme vous dites.
Oui, Shakiba Daoud dénonce les regrets et condamnations exprimées par les responsables occidentaux qu'elle juge inutiles face à une communauté internationale qu'elle considère incapable de faire plier le régime taliban. Selon elle, s'il y avait une véritable volonté de la part de la communauté internationale, la situation aurait déjà changé. Pourtant, il reste quelques leviers. Cette semaine, 6 pays, dont la France et l'Espagne, ont saisi la Cour pénale internationale pour enquêter sur les violations systématiques des droits des femmes en Afghanistan. Ils ont exhorté la procureure de la CPI à examiner les crimes commis depuis 2021. Reste à voir si cette initiative pourra infléchir les restrictions imposées aux femmes afghanes pour le régime taliban.
Vaïd Shamsoudine Zad de la rédaction Persane de RFI. Avec la rédaction en espagnol, intéressons-nous maintenant au port de tous les superlatifs. Bâti au Pérou, c'est le mégaport de Chancay, le plus grand, le plus moderne, le plus important d'Amérique du Sud. Il a été inauguré par Xi Jinping, car la Chine l'a financé à hauteur de 60%. Ubaldo Bravo de la rédaction hispanophone, en 5 ans, les travaux ont littéralement chamboulé cette ville de Chancay.
Oui, Philippe, aujourd'hui, ses habitants sont en train de payer très cher les promesses économiques faites par Costco Shipping, l'entreprise chinoise qui contrôle ses ports. Celui-ci apporterait au Pérou au moins 4 500 millions de dollars chaque année, soit 1,8% du PIB du pays. Une promesse qui a suscité des années de douleur aux habitants de Chancay. Jour et nuit, les locaux ont entendu ces explosions pour démolir une colline et pour construire un tunnel. Des explosions qui ont même provoqué plusieurs tremblements de terre, les murs des centaines de maisons ont été fracturés, certains se sont carrément effondrés. Voilà les constats du président de l'association En Defensa de Chancay, Vladimir Cantoral.
Lamentablemente vemos un futuro gris porque no sabemos ciertamente qué va a ser del distrito.
Aidez-nous à comprendre ce qu'il dit.
On ne sait pas ce qui nous attend, c'est ce qu'il a dit, parce que les habitants vivent avec l'incertitude d'un jour voir tomber leur maison. Ces activistes nous a dit Vladimir Cantoral qu'il a surtout peur des effets de l'urbanisation, parce que en parallèle de ce mégaport qui sera finalisé d'ici 10 ans. Il y a la construction d'un énorme pôle industriel au bord de Chancay. La conséquence, les champs cultivables sont en train de disparaître. Au moins 1500 hectares cultivables seraient engloutis par l'urbanisation.
Alors, à l'inverse, hein, il y a des choses positives. Le temps de trajet maritime entre Shanghai et Chancay, oui, ça, d'ailleurs ça se ressemble, hein, est désormais de 10 jours. Ce port est le seul en Amérique du Sud à pouvoir accueillir les navires les plus grands du monde.
Oui, Philippe, voilà le récit officiel, mais ce récit ne cache pas uniquement la tragédie des habitants locaux, il cache aussi une catastrophe au fond de la mer, parce que pour construire ces ports, il a fallu aménager 1000 hectares de côtes. Écoutons les explications du biologiste Antonio Peño de l'ONG Cooperación au Pérou.
Muchos de los fondos marinos, los cuales albergaban una alta biodiversidad y eran incluso de anidamiento de
algunas especies.
Le dragage du fond marin a été une tragédie pour la vie maritime déjà, parce qu'il a perturbé directement cette zone de nidification des poissons. Et puis, comme le dragage, c'est une espèce d'excavation qui déclenche de la poussière, celle-ci pourrait bloquer les branchies des poissons. Anthony a souligné qu'il est maintenant difficile de se rendre sur place pour mieux étudier les impacts, parce que l'entreprise chinoise les empêche de s'approcher du port.
Alors, comment fait-il pour évaluer la situation, pour affirmer ce qu'il dit ?
Il est réduit à faire de la sociologie, Philippe. En fait, il mène des entretiens auprès des pêcheurs pour savoir comment étaient les quantités de captures avant la construction du port. Le constat est frappant. Il n'y a plus de poissons et ils doivent aller beaucoup plus loin pour en trouver. Certains pensent à chercher un autre métier. Anthony, lui, en tant que biologiste, alerte qu'il y aura d'autres perturbations dans les écosystèmes marins parce que les gigantesques bateaux vont provoquer des bruits que les baleines, par exemple, ne supportent pas. Le port de tous les superlatifs, comme tu l'as bien dit au début, c'est une tragédie sur terre et en mer, et les autorités péruviennes gardent le silence.
Bah oui, mais on achète tout avec l'argent, donc c'est peut-être pour ça que les autorités péruviennes ne critiquent pas trop ces investissements chinois. Vous l'avez dit, hein, Costco, c'est un immense armateur chinois partout dans le monde, et notamment donc maintenant dans ce pays, le Pérou. Ubaldo Bravo, de la rédaction hispanophone de RFI. À Paris se tient le festival Art Doc Fest, et les auteurs russes et ukrainiens ils sont à l'honneur cette année. Denis Strelkov de la rédaction russe, vous y êtes allé à ce festival. Qu'est-ce que racontent les films qui sont présentés ?
Plusieurs choses. Les dernières semaines de Mikhail Gorbatchev, les manifestations contre Vladimir Poutine en 2012 après les élections du président, les espoirs et l'amour de la jeunesse russe malgré la guerre, c'est tout d'abord un cinéma de résistance, m'ont expliqué les réalisateurs qui veulent souvent rester anonymes par crainte de représailles. Leur cinéma, c'est leur engagement civil et c'est leur arme pacifique en quelque sorte. Et cette arme fonctionne plutôt bien car les salles de ce festival sont pleines. Le film d'ouverture cette année, car c'est déjà le deuxième festival Art Doc Fest à Paris, c'est le conte de Chaman, The Shaman's Tale.
Удивительная история Александра Габышева, известного как Саша Шаман, который идет из Якутии в Москву свергать власть.
8000 километров пешком.
Так, qu'est-ce qu'on entend là?
On entend la musique, car c'est une histoire d'Alexandre Gabychev, un chaman yakout, qui a décidé d'organiser une marche de Yakoutsk jusqu'à Moscou, c'est plus de 7000 km, pour chasser Vladimir Poutine du pouvoir, pour des raisons spirituelles, qualifiant Poutine d'un représentant du démon sur le sol. Lors de son voyage, il a traversé la Russie oubliée, rencontré des opposants du pouvoir, ainsi que les activistes pro-Poutine, mais est finalement arrêté et placé dans un hôpital psychiatrique. C'est une histoire qui a fait beaucoup d'écho en Russie à l'époque. D'ailleurs, Alexandre Gabychev, lui, est toujours dans un hôpital. Mais dans les médias, y compris les médias occidentaux, on a eu tendance à avoir une certaine caricature, une opposition tout à fait déconnectée de la réalité. Ici, c'est un peu le road movie digne d'un grand voyage, une histoire de l'espoir, de déception, de la violence, y compris policiers. On y voit force des convictions, mais également une certaine impuissance humaine. Et c'est la clé pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement en Russie.
Alors vous avez vu plusieurs films hein, à ce festival, ouais. Denis. L'un d'entre eux, c'est La caravane et les chiens, qui parle de la presse indépendante en Russie.
Oui, Philippe, ou plutôt de la lutte que les autorités russes ont menée et assez effective, de manière assez efficace, contre les journalistes et les opposants.
Я приветствую всех, кто смотрит телеканал «Дождь». Меня зовут Тихон Зитков. В Москве 6:38 утра. Вопреки надеждам многих и вопреки моим надеждам, к сожалению, я ошибался. Война началась.
Donc ça c'est quoi? C'est un extrait de ce film?
Oui, effectivement, c'est un extrait de ce film. C'est l'annonce de la guerre de 2022 à la chaîne indépendante de télévision russe. Le titre de ce film, il fait référence à une proverbe « Les chiens aboient, mais les caravanes passent ». Peu importe les critiques, le système, il avance. En fait, cette phrase, comme explique le film, signifie l'inverse. C'est grâce aux chiens qui protègent la caravane que le système avance et fonctionne. Skolt Kourov a regardé de très près les derniers jours des médias qui ont dû fermer ses portes face à la censure totale militaire installée par l'État après le début de la guerre en Ukraine. Ces journalistes ont vu leur vie et la vie de leur pays bouleversée en espace de quelques jours, mais continuer de travailler jusqu'au bout. On y voit notamment Dmitri Muratov, lauréat du prix Nobel de la paix, qui doit fermer le journal qui existait pendant des décennies. Ce qui choque, c'est comment les personnages essaient d'être optimistes jusqu'à la fin, de ne pas croire que le pire arrive. En 2024, on regarde ce film avec ce contexte particulier. On sait très bien comment cela va finir. Ce qui fait de ce film une véritable expérience.
Alors, ce festival se termine ce dimanche. Autre chose au programme ?
Oui, Philippe, j'ai
un film.
Un film. C'est le cométa Ostrov de Svetlana Rodina qui explore la vie isolée des habitants d'un village sur une île de Daghestan figée dans les années 90 après l'effondrement de l'URSS.
Et il est privé d'infrastructures et d'espoir. Hein,
oui, effectivement, il survit dans la résignation. Il reflète une métaphore assez poignante de l'immobilisme et des défis sociaux en Russie d'aujourd'hui.
Et c'est donc à voir à Paris jusqu'à ce dimanche. Denis Relkov de la rédaction russe de RFI, c'était Accent du Monde, réalisé ce soir par Olivier Roux.